Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morisio.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles en direct sur Sud Radio comme chaque semaine. Vous pouvez également nous regarder en live sur Facebook ou encore en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Une actualité encore et toujours bien sûr dominée par la crise sanitaire liée au coronavirus et la Covid-19. Les deux ne sont en effet pas à confondre. Et si j'insiste sur ce point, c'est que dans cette émission, nous allons essayer justement d'être particulièrement précis sur tous les chiffres qu'on entend un peu partout pour décrire la réalité de cette situation sanitaire. Le gouvernement en fait-il trop? Nous allons en parler avec notre invité sans aucun tabou. C'est parti pour un nouvel épisode des Incorrectibles. Nous sommes ensemble pour une heure sur Sud Radio.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morisio.
Alors, notre invité du jour est médecin à l'Hôtel Dieu, professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'IRMES, ancien membre du Haut Conseil de la Santé publique. Il a publié plus d'une centaine d'articles de recherche scientifique. Et depuis le début de ce que beaucoup qualifient de pandémie de la Covid-19, il scrute les innombrables données qui lui arrivent du monde entier et porte une analyse critique sur les profonds dégâts collatéraux engendrés par les décisions gouvernementales. Il est donc à nos côtés en ce second dimanche d'octobre pour nous apporter son point de vue sur cette crise et notamment son refus d'être gouverné par la peur. Professeur Jean-François Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans les Incorrectibles sur Sud Radio. Alors parlons d'abord de cette tribune, en tout cas d'une de vos tribunes. Vous êtes l'un des 35 signataires d'une tribune qui était parue dans Le Parisien le 10 septembre dernier, dans laquelle vous critiquiez, aux côtés d'autres chercheurs, universitaires et médecins, la communication du gouvernement sur cette crise sanitaire que vous jugez trop anxiogène. Vous écrivez notamment, je vous cite, nous appelons les autorités politiques et sanitaires françaises à cesser d'insuffler la peur à travers une communication anxiogène qui exagère systématiquement les dangers sans en expliquer les causes et les mécanismes. Il ne faut pas confondre la responsabilisation éclairée avec la culpabilisation moralisatrice, ni l'éducation citoyenne avec l'infantilisation. Ces mesures générales et uniformes imposées sous surveillance policière relèvent davantage d'une volonté d'afficher une posture protectrice que d'une stratégie sanitaire précise. Voilà qui est dit. Alors pour vous, le gouvernement, il exagère la dangerosité du virus faute d'une véritable stratégie sanitaire?
Bien écoutez, on voit que cette stratégie a été initiée, elle a été assumée, elle a été développée. Le dernier avis du Conseil scientifique, le 22 septembre, qui est sorti la semaine dernière, le notait en disant que l'ensemble, finalement, de la communication qui avait été faite sur la peur, et donc insufflant cette idée-là, n'arrivait plus à faire effet. Et donc c'est le constat de quelque chose qui avait été décidé, qui avait été mis en perspective et utilisé comme tel, qui montre son échec. Le deuxième point, c'est que nous avons entendu après cette tribune la déclaration jeudi dernier du ministre de la Santé, qui a employé ces mêmes termes pour dire qu'il n'était plus question d'avoir une position et un discours anxiogène. On entend des mots qui commencent à correspondre à des changements peut-être au minimum de conception, peut-être en viendra-t-on à trouver les clés de la pédagogie pour expliquer aux Françaises et aux Français ce qui se passe réellement.
Alors selon vous, on joue sur la peur des Français, pourquoi? Pour pallier à l'incompétence et à des prises de décision qui n'ont souvent ni queue ni tête, c'est ça?
Non, il y a plusieurs effets qui se sont télescopés, à la fois la peur initiale, individuelle, au cœur même des instances de décision, à la fois l'inexpérience, à la fois la jeunesse, à la fois la difficulté en recul par rapport à l'intensité de cette crise. Et on voit que quantité de gouvernements de par le monde n'ont pas agi de la même façon, même si, et le grand problème de cette crise a été finalement celui d'une décision unique, quasiment suggérée par les instances internationales, l'OMS, et qui a fait basculer la moitié de l'humanité sur un mode de confinement qui n'était probablement pas le plus approprié.
Alors concernant les chiffres, il semblerait qu'on fasse dire tout et n'importe quoi donc à ces chiffres annoncés et qu'on ne soit même plus à l'abri d'erreurs. Preuve en est le récent couac de Santé publique France dont les données étaient erronées. Alors donc là-dessus, d'abord j'aimerais une précision. Alors là, à titre totalement novice et amateur, on entend en permanence qu'il y a, alors là on va le dire, donc plus de 27 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Des cas très souvent qualifiés de Covid-19. Mais si je comprends bien, pour les auditeurs qui nous écoutent, la Covid-19, c'est le nom de la maladie. Et lorsqu'on est testé, vous me reprenez si je me trompe, professeur, on est testé à la présence d'un virus. Ce n'est donc pas la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Est-ce que, quand on entend beaucoup de médias qui disent qu'il y a 27 000 nouveaux cas de la Covid-19, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ?
On est testé, lorsqu'on est positif, à la présence d'un fragment d'ARN viral.
C'est-à-dire pas à la maladie.
C'est-à-dire même pas au virus. Et on mélange, au milieu de tout cela, des sujets qui sont guéris, des sujets qui sont non contagieux, des sujets qui sont asymptomatiques, des sujets qui sont peu symptomatiques, des sujets malades et des sujets sévères. Et on ne sait plus faire le tri au milieu de tout cela, sans compter même les faux négatifs qui oublient de dépister, ou les faux positifs qui, par excès, vont trouver des gens qui n'auraient jamais rencontré le virus. Sur l'ensemble de ces points, on n'arrive plus maintenant à trouver le lien qui nous ramène à la maladie, qui est la certitude de cas sévères qu'il faut voir sur les formes sévères et sur les décès. Or, comment on le fait maintenant, et vous faites bien de mentionner cette dérive sémantique qui est
donc,
venue...
Donc quand on dit qu'il y a 27 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, 26 896...
Il y a 27 000 tests positifs.
Ça ne veut pas dire 27 000 nouveaux malades, on est bien d'accord.
Loin de là.
Voilà.
Loin de là. Et donc, on va avoir par cet effet, finalement, un changement qui nous a fait passer du décompte de la mortalité quotidienne à celui de ces tests positifs. Si nous avions la même létalité que celle que nous avions eue au mois de mars, c'est-à-dire le rapport du nombre de décès sur le nombre de positifs, qui était de 10 à 20% selon les jours, il aurait dû y avoir hier 5400 décès en France. Nous en avons connu 54. Ce qui veut dire que cet état de fait nous démontre une maladie qui est 50 à 100 fois moins létale.
Oui, 50 donc là, c'est important parce que là aussi, vous précisez une nouvelle différence, il faut bien distinguer la positivité au test de la maladie et le taux de mortalité. C'est encore
absolument
autre chose.
Et ce que l'on voit donc, c'est que cette maladie étant moins mortelle, la maladie, c'est toujours la rencontre d'un virus et d'une espèce cible dans des circonstances particulières. Comme le virus, manifestement, les virologues nous disent qu'il a peu changé, il a muté, il mute systématiquement de bronche en bronche, il peut avoir des effets...
Selon vous, il aurait pu muter.
Il a muté tout le temps, dès qu'il franchit la distance qui nous sépare et que vous me donnez votre virion ou que je vous transmets le mien, dans ces phases de reproduction, il va avoir une probabilité de mutation non négligeable. Donc en fait, il ne cesse de changer et on en mesure justement les chaînes de transmission internationales ou interrégionales. Et à partir de là, ce que l'on voit, c'est que les formes sont relativement de même virulence. Et si on a une maladie qui est 50 à 100 fois moins létale, c'est parce qu'autre chose a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, la réaction de la population ou les circonstances. Quelles sont-elles ? L'effet de voir cette positivité aussi importante des taux qui arrivent à 10%, pour des millions de tests par semaine. On est à 1 million de tests par semaine. Donc on arrive à une représentativité relativement intéressante de la population française. Depuis le mois de juillet que ces tests ont été ouverts gratuitement pour les Françaises et les Français, mais en fait à hauteur de 2 milliards d'euros pour la sécurité sociale, c'est-à-dire pour le budget des Françaises et des Français, on voit que l'objectif atteint, la démonstration au 11 octobre 2020, est de montrer l'exact inverse de la stratégie qui était initialement proposée. Je m'explique. Si nous avons autant de positifs et qu'on en additionne statistiquement ce que cela représente pour la population, nous arrivons à une valeur autour de 20% de personnes qui ont rencontré le virus. Que veut dire ce chiffre ? Il veut dire simplement que la diffusion est actuellement tellement importante qu'elle échappe à toute stratégie de blocage, à toute stratégie évidemment d'éradication, on n'arrivera jamais à éradiquer le virus, et elle montre que la propagation se fait de plus en plus vite, et donc que l'immunisation dans la population est en train de s'élever de façon très importante.
On va continuer de parler justement de statistiques et de ces chiffres, parce que c'est important aussi pour ne pas confondre tout ce qui est dit actuellement un peu partout dans les médias et pas sur radio forcément. Restez avec nous, nous sommes ensemble encore près d'une heure avec le professeur Jean-François Toussaint sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. À tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio, bien entendu, mais aussi en live vidéo, comme on dit sur les réseaux sociaux, avec le professeur Jean-François Toussaint pour parler de cette crise sanitaire. Une voix quand même un petit peu discordante hein, par rapport au professeur qu'on voit un petit peu partout sur les plateaux de télévision. Alors professeur, juste avant de s'interrompre, vous parliez donc de ce que l'on appelle l'immunisation collective, hein, c'est bien cela. Quand est-ce que l'on pourrait espérer l'atteindre, cette immunisation collective ?
Eh bien écoutez, je ne suis pas certain d'être aussi discordant et aussi isolé que nous l'étions il y a quelque temps. Vous voyez de plus en plus de prises de position de médecins, de professeurs d'université qui viennent progressivement développer cette idée et comprendre. Éric Combe l'avait fait dès le mois de juillet cet été. Alexandre Carpentier, neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, le redit dans un article des Échos très récent. On voit que cette expansion actuelle dont on parlait tout à l'heure, finalement, du virus, montre un taux d'immunisation extrêmement important dans la population. Il n'est pas du tout de 4% comme essaie de nous le faire croire un certain nombre de médecins. On est dans des phases beaucoup plus élevées parce que la circulation est très rapide et on le voit sur le taux de positivité qui ne cesse d'augmenter. Et cela veut dire que s'il continue à cette vitesse, et alors que nous ne sommes qu'à un taux de létalité très inférieur à celui du mois de mars, c'est-à-dire sans les conséquences que nous avons connues au moment du tsunami du printemps, eh bien ce que l'on voit, c'est que finalement, on pourrait arriver à ce que la Suède est parvenue à faire dans les mois qui viennent, c'est-à-dire au cours de l'hiver, avoir des taux de positivité dont un certain nombre d'articles nous ont dit qu'à 40, 45, 50%, cela pourrait correspondre à la définition d'une immunisation collective dans cette pandémie.
Alors justement, vous parliez de la Suède, un pays qui n'applique pas forcément les mêmes politiques hein, en matière sanitaire. Qu'est-ce que concrètement devrait faire le gouvernement aujourd'hui où de nouveau, plusieurs villes sont confrontées depuis hier, notamment à des mesures plus restrictives. Après Paris, Marseille, on pense bien sûr à Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Étienne. Alors les décisions, là encore, ne semblent pas forcément avoir tout le temps une forte cohérence.
La question de la cohérence, qui est celle d'un certain nombre de pays, et quel qu'ait été le choix qu'ils aient fait, que ce soit celui d'un confinement strict comme en Nouvelle-Zélande ou de...
Parce que là, on dirait qu'on y arrive hein, tranquillement à un nouveau confinement. Vous y croyez ou pas? Il y a des rumeurs qui circulent.
Le confinement global est, à mon avis, improbable. Improbable parce que les conséquences économiques que l'on constate maintenant et que nous avions annoncées depuis le début, que l'on a réannoncées dans une tribune à Marianne jeudi dernier, sont des conséquences sociale et économique terrible sur lesquelles le gouvernement ne prendra pas la deuxième.
Pardon, général, on est d'accord, mais local, celui-là...
Local, oui, on le voit arriver. Et il n'a pas plus de cohérence. On le voit arriver dans un certain nombre d'éléments, mais il n'a pas plus de cohérence que les autres, en particulier lorsqu'on désigne un certain nombre de boucs émissaires, que sont les restaurants, les salles de sport, ou d'autres éléments qui n'ont pas fait la preuve d'une propagation supplémentaire.
C'est ça, professeur. Quelles sont les conditions susceptibles, selon vos connaissances, d'entraîner un plus fort risque de contamination? Car là, alors vraiment, on n'y comprend plus rien du tout. On ferme les bars, mais pas les restaurants, les piscines, mais pas pour les mineurs, les salles de sport, mais pas les transports en commun. D'ailleurs, je crois qu'il y a une tribune qui a retenu votre attention aujourd'hui dans le JDD.
Oui, je crois que c'est une tribune signée par Zinedine Zidane qui rappelle effectivement ce que sont les éléments...
Pas forcément un médecin, lui, donc.
Non, mais il sait ce que sont les conséquences économiques pour le sport en général. Il sait aussi ce que le sport apporte à la société. Et toute la question du recul culturel massif que l'on a pour les musiciens, pour les artistes de rue, pour les sportifs, pour l'ensemble de ces professions qui sont touchées au cœur, nous montre que nous n'avons plus la capacité de trouver les mesures qui soient les plus pertinentes pour protéger les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées et les sujets qui ont des troubles métaboliques, que ce soit la sédentarité, contre lequel, d'ailleurs, au passage, le sport va permettre une meilleure défense immunitaire, mais aussi l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Sur l'ensemble de ces points, il faut avoir une prévention focalisée sur ces points-là, sans écrouler le reste de la société, et surtout pas dans les endroits où le virus ne va pas faire de dégâts.
Qu'est-ce que vous pensez de la situation en entreprise, hein, puisque évidemment on est nombreux à travailler dans des sociétés où il y a beaucoup de monde, en entreprise, dans les écoles, les universités également. Là-dessus, vous êtes plutôt...
Là encore, on est sur des mesures des mesures qui montrent que on certes tente de limiter la propagation du virus, mais ce ne sont pas les générations et ce ne sont pas les populations qui vont développer les formes sévères. Autrement dit, ce que l'on a là, c'est tenter de ralentir la propagation, dont par ailleurs, la campagne de tests positifs nous montre qu'elle est en expansion extraordinairement rapide et, une fois de plus, qu'elle est en train de nous montrer ce développement d'une immunisation de la population française. Si tel était le cas, alors à ce moment-là, il faut, chez les jeunes, avoir la capacité essentiellement et seulement d'accompagner et de traiter les formes sévères chez eux, chez les personnes plus âgées et chez les personnes à risque. C'est dans ce domaine-là où il faut mettre les moyens, non pas en les supprimant de la part d'acteurs socio-économiques qui contribuent à la richesse nationale et donc à la capacité de mettre de l'argent pour les systèmes de soins, mais le mettre directement dans le système de soins pour accompagner les soignants, les infirmières, les médecins, les équipes qui doivent soigner les malades. Notre rôle en tant que médecin n'est que celui-là d'être en capacité de soigner. Or, on a vu, par exemple, simplement diminuer le nombre de lits de réanimation, passer de 7000 à 5000 entre le printemps et l'automne. Était-ce bien raisonnable de trouver dans cette situation-là, alors que par ailleurs, d'autres n'ont cessé de dire qu'une deuxième vague allait arriver?
Vous voulez dire qu'il y a moins de lits de réanimation?
Mais descendu de 7000 à 5000 lits. Donc si on est actuellement avec 1400 lits de réanimation occupés, on est à 28% et on se dit, on va déborder les capacités.
Alors, qui est responsable selon vous?
Mais si on revient à 7000 qui était la hauteur à laquelle cette vague du printemps nous a soumis, à ce moment-là on est à 20%, si on est à 12 000 lits comme le ministre de la Santé l'a dit récemment et pour lequel il a réouvert à 50 millions d'euros vendredi les capacités de rajouter 4 000 places, à ce moment-là, on n'est plus qu'à 12%. Si on est à 12%, ça change totalement les perspectives et ça change totalement l'inquiétude qu'on doit développer. Il faut être en capacité d'organiser et l'État et l'ensemble du système de soins pour répondre à une demande qui est celle d'une augmentation des formes graves. Encore faut-il que ces formes graves soient confirmées et que ne ce soit pas des patients qui viennent avec d'autres maladies simplement porteurs du virus. Parce que, comme le virus se répand partout chez les sujets sains et les sujets malades,
et qu'on attribue
on a encore
à la COVID-19.
Cette attribution.
Alors justement, un petit mot, faisons un petit zoom justement sur ce virus. Hein. Sans rentrer dans le détail, nous parlions la semaine dernière avec le professeur Chabrière ici même du discours du médecin et député Martine Vonner qui affirmait que les masques ne servaient strictement à rien, qu'il aurait été prouvé que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Quelle est votre position là-dessus, professeur Toussaint ?
Alors, les masques sont extraordinairement utiles dans les milieux clos. C'est fait pour éviter d'ensemencer un ventre ouvert lorsqu'on opère un malade.
Donc, en famille, vous êtes pour le port du masque ?
En salle d'opération, je suis pour le port du masque. Deuxième point, sur les milieux clos dans lesquels la transmission aéroportée est plus que probable, elle a même été démontrée.
Donc là, on devrait porter un masque, on vous écoute.
Porte le masque lorsqu'on est en phase de
proximité très
contamination et lorsque l'on est dans les phases aiguës de la maladie, c'est-à-dire celle du printemps. Nous n'y sommes plus. Deuxièmement, en milieu ouvert, l'OMS l'a redit pendant tout l'été, dans la rue, à l'extérieur, il n'y a aucune étude qui permet d'en apporter la certification. C'est donc une mesure de précaution qui a été prise et l'OMS surtout demandait à ce que les études soient faites pour en démontrer l'efficacité et l'acceptabilité par les populations. Combien de pays, à votre avis, ont fait cette étude ? Dans le monde, deux seulement, la Guinée-Bissau et le Danemark. Nous aurons donc, dans les mois qui viennent, et pas tout de suite, la réponse à ce à quoi l'OMS nous demandait de travailler, qui portera par le biais de ces études danoises et de cette étude en Guinée-Bissau sur 6000 sujets et 40 000 pour l'autre, pour savoir si le masque est effectivement efficace en extérieur.
Et à l'inverse, hein, puisqu'il y en a d'autres qui affirment justement que le virus est aérien et que ce n'est pas en se lavant 12 000 fois par jour les mains qu'on va le stopper. Donc vous êtes en faveur du gel pour se laver régulièrement les mains ?
À nouveau, le point important est celui des gestes barrières pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Oui. L'autre question est de savoir comment se terminera l'épidémie et comment, finalement, se situe cette question qui est celle d'une population qui ne développe plus de cas graves. Il y a deux options, et seulement deux, soit celle de l'immunisation vaccinale, et la question c'est quand arrivera le vaccin, et la deuxième c'est celle de la circulation.
Quand est-ce qu'on peut l'espérer selon vous ?
Impossible à dire.
Donald Trump
on voit une accélération, majeure dans tous les pays du monde, et d'ailleurs qui outrepasse les cycles essentiels de vérification de l'efficacité et de la tolérance, par les vaccins russes, par les vaccins chinois. On va voir apparaître des formules vaccinales dont on ne saura pas très bien si
elles sont efficaces ou pas. On n'aura pas le recul nécessaire.
Et on n'aura pas le recul des phases 3 sur des dizaines de milliers de sujets pour en avoir la certitude. Donc ça, ça nous amène à plusieurs mois au cours de l'année 2021. On verra à quel moment ça viendra. Mais pendant ce temps-là, ce que l'on voit, c'est l'autre option d'immunisation. Et si on arrive, alors que cette immunisation est réalisée dans un grand nombre de pays, comme l'a démontré la Suède une fois de plus, alors à ce moment-là, on va se poser la question de savoir l'utilité de ce vaccin après la phase épidémie.
On continue bien sûr de parler de cette crise sanitaire avec une voix qui change un peu de celle souvent générale dans les autres médias. C'est celle du professeur Jean-François Toussaint qui est notre invité dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Restez avec nous, ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, nous sommes toujours en direct sur Sud Radio, bien évidemment, mais aussi en live vidéo sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous apostropher avec nous dans cette émission. Donc un invité qui n'a pas la langue dans sa poche, puisqu'il s'agit du professeur Jean-François Toussaint, qui est un expert, bien sûr, dans le domaine notamment des chiffres concernant ce qu'on entend un peu partout. Alors, première question, j'aimerais vous demander, professeur, est-ce qu'on est bien, comme on le dit partout, est-ce qu'on assiste bien à ce qu'on nomme une deuxième vague ?
Le phénomène actuel n'est pas du tout celui que nous avons connu au printemps. On voit des taux qui sont 40 fois plus lents, 40 fois plus faibles, une progression 40 fois plus faible que celle du mois de mars 2020. On n'a donc absolument pas les conditions qui sont celles que nous avions connues au moment du tsunami, lorsqu'il a failli déborder l'ensemble du système de soins français. Il ne l'a pas fait d'ailleurs pour plusieurs raisons qu'on pourrait...
Alors pardon de vous interrompre, parce que là c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien quand on voit, le professeur, le docteur Véran, puisqu'il est aussi médecin, nous annoncer que la courbe est en hausse. Là on parle, c'est parce qu'on teste de plus en plus de monde, on le rappelle
tests,
de nouveau.
La courbe donc des tests positifs inévitablement... est en augmentation, mais pas la courbe de la mortalité dans les mêmes proportions. Et c'est ça qui est important, c'est ce que je disais au début. Elle est 40 fois moins importante en ce moment. Et donc, on se retrouve dans une situation qui montre que les modèles et les algorithmes qui ont été employés pour annoncer 500 000 décès en France, 100 000 décès en Suède, montrent qu'ils n'ont pas les hypothèses fondées pour pouvoir éclairer la réalité. C'est ce que je n'ai cessé de répéter en disant qu'il faut observer le réel et s'y conformer pendant tout l'été. Il n'y a pas eu de deuxième vague à chaque fois qu'elle avait été annoncée. Et donc, les critères qui étaient les critères algorithmiques et mathématiques n'étaient pas les bons. Maintenant, on se trouve quoi ? Dans une situation dans laquelle on dit une deuxième vague. La réponse est non. C'est une phase dans laquelle on voit réaugmenter 40 fois plus lentement une valeur sur les hospitalisations, la réanimation et la mortalité que nul ne conteste. On voit cette augmentation. Mais 40 fois plus lente, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois de plus, ça veut dire que le changement intégral dans lequel s'est fait les conditions de la propagation des formes létales, des formes mortelles de la maladie, est totalement différente, et en particulier parce que l'immunisation de la population a extraordinairement progressé pendant l'été.
On craint tous, professeur, un nouveau confinement. Alors, vous le disiez, pas général forcément, mais en tout cas peut-être local, puisque en tout cas des rumeurs circulent à ce sujet. Est-ce que le confinement, de manière générale, a fait les preuves de son effet ?
Plusieurs études, notamment celle de l'Université d'Oxford et d'autres, ont publié en juillet, en août, en septembre et à nouveau maintenant, l'effet de ce... du côté strict du confinement, et donc cet index d'intensité des confinements, et l'on comparait à la mortalité finale. On peut s'attendre à ce qu'un médicament utile, lorsqu'il est utilisé à bonne dose, fasse un effet pour ralentir la propagation d'une maladie. C'est la même chose pour les mesures non médicamenteuses, dont le confinement. Eh bien, lorsqu'on regarde ça pour la totalité des pays qui ont développé et qui ont vu cette pandémie sur leur sol, eh bien, il n'y a aucune association entre l'intensité du confinement. Certains n'ont pas confiné, comme la Suède. Certains ont pris des mesures intermédiaires. Certains ont mis des confinements stricts, comme en Espagne et en France. D'autres militarisés, comme certains pays, Afrique notamment. Eh bien, Le résultat, c'est que ce confinement a été utilisé à tort et à travers et qu'il n'a eu aucun impact final sur la mortalité. Le virus se propage, les formes létales au début, lorsque la population est dite naïve, lorsqu'elle n'a pas encore rencontré le virus, sont majeures, ne tiennent pas compte de la décision publique, mais tiennent essentiellement compte de la structure de la population, de l'âge, des maladies cardiovasculaires et des conditions environnementales.
Je vous entends citer beaucoup la Suède, mais alors là, on a envie de vous demander, il y a une coordination de la recherche au niveau européen où on est complètement laissé chacun dans notre coin?
Non, il y a des coordinations en termes de mondiale. Recherche. Il y a des collaborations qui se font dans tous les continents. Chacun active ses réseaux.
Il y a des guerres, enfin, des labos.
Il y a bien entendu des combats qui sont des combats commerciaux et des combats de préséance aussi pour les publications. Là n'est pas le cas. La question est simplement liée à quels sont les thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il n'y en a aucune antivirale actuellement. On n'arrive pas à bloquer ce virus-là. Certains autres peuvent en avoir des effets, mais pas celui-là. Et on a des effets qui n'ont pas montré, une fois de plus, sur le plan des techniques sanitaires, autre chose que ce à quoi les hypothèses de février ont cru pouvoir redémontrer au mois de mai, après les confinements européens. En disant on a épargné 3 millions de vies, 60 000 en France. Tout cela était faux et basé sur des seules hypothèses dont on a pu démontrer qu'elles étaient fallacieuses. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il reste quoi? Il reste des thérapeutiques qui sont non médicamenteuses et qui ne dépendent que de vous. C'est de renforcer ses défenses immunitaires. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est justement d'avoir une activité physique ou sportive, peu importe le choix que vous en faites, mais c'est d'augmenter et de maintenir sa condition physique, de ne pas être en obésité, de ne pas être sédentaire, de ne pas être dans des situations dans lesquelles l'aggravation de vos conflits internes finisse par une diminution de la circulation, par affaiblir votre immunité. Or, c'est justement ça dont on prive les Françaises et les Français actuellement, en fermant les lieux de sport et comme on l'a fait en fermant les plages et les parcs naturels au printemps. C'était l'erreur absolue dans laquelle il fallait au contraire laisser sortir les gens et les laisser avoir une capacité de maîtriser leurs conditions physiques.
Vous parlez de communication anxiogène dans votre tribune. Quelles sont les conséquences, justement, selon vous, de cette crise sur le moral et la santé des Français?
Parce qu'on, bien, ils sont,
on assiste donc à une augmentation, selon même un rapport rendu public vendredi, une augmentation notable de la consommation de psychotropes.
Oui, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu dans un grand nombre de pays, dans lequel, en fait, on n'arrive plus à tenir le discours du futur, le discours de sortie de crise, alors que, une fois de plus, la mortalité est 100 fois moins importante. On devrait être à 5400, on n'est qu'à 54. C'est quand même des points qui sont majeurs dont il faut retenir l'ordre de grandeur. Si on n'arrive plus à donner un projet, à donner une espérance, et en particulier aux plus jeunes, qui ont par ailleurs été désignés comme bouc émissaire pendant tout l'été, c'est pas le comportement des jeunes qui a changé quoi que ce soit, c'est la diffusion virale qui est en réponse à l'ensemble de ces critères qui sont des critères démographiques, qui sont des critères sanitaires et des critères environnementaux.
Donc la fermeture des bars à 22h, selon vous, c'est une hérésie?
Donner un permis de circuler à un virus jusqu'à 22h, je pense que ce n'est pas la façon dont il va réagir. En tout cas, il ne va pas s'y conformer de façon certaine.
En tout cas, cette situation, ça risque aussi d'entraîner d'autres pathologies, on le voit, comme la dépression, puisque il y a plus de psychotropes consommés, ça veut dire qu'il y a plus de dépression. Est-ce qu'il y a d'autres maladies connexes qui peuvent apparaître?
Les pathologies psychiatriques et la santé mentale vont effectivement être fortes, éprouvées, en particulier si on n'arrive pas à redonner de l'espérance et des capacités pour toutes les personnes qui sont actuellement en situation de licenciement, en situation de faillite, en situation de détresse sociale. On va avoir des effets majeurs qui vont non seulement augmenter pathologies psychologiques et psychiatriques, mais aussi et surtout par le recul des capacités de santé et de prise en charge des patients cancéreux, des patients cardiovasculaires. On a vu des décès augmentés par mort subite des gens qui n'osaient pas sortir au printemps, qui sont décédés chez eux, qui ne pouvaient pas être pris en charge par les SAMU, et non pas parce que les urgences étaient pleines. Les urgences à Paris fonctionnaient à 50% de leur activité seulement au mois de mars et d'avril. On a vu chuter dans les hôpitaux parisiens l'activité totale, sans qu'elle ait été remplacée par les patients Covid. Les patients Covid ont essentiellement ciblé les réanimations et vu augmenter. Donc il fallait aider les réanimations, c'est ce que tout le système de soins s'est décarcassé à faire, et il faut le refaire maintenant si les cas pathologiques sévères augmentent. Eh bien, c'est ce qu'a annoncé le ministre. C'est bien, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller.
Donc là, c'est un satisfecit que vous lui attribuez ?
Ah ben, 50 millions d'euros, c'est un début. 4000 places, c'est par rapport à ce qu'il manque et ce qui a diminué un des éléments moteurs pour pouvoir réaugmenter pendant une phase dans laquelle cette phase risque, à cause de la saisonnalité, de réaugmenter le nombre et les cas sévères pendant cet hiver.
Professeur, en tout cas, de manière générale, vous êtes quand même très critique de l'action gouvernementale en matière de prévention et puis de traitement de ce problème, de cette crise sanitaire. Est-ce que vous soutenez l'action en justice d'un collectif de médecins présenté par Maître Divisio, qu'on recevait il y a quelques semaines là aussi sur ce plateau? Il a lancé diverses procédures contre des autorités sanitaires, notamment Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre, Agnès Buzyn lorsqu'il était ministre de la Santé, même Olivier Véran et encore même Jean Castex. Est-ce qu'il faut les condamner s'ils ont failli ?
Je ne suis pas du tout dans cette perspective. Je ne considère pas que la judiciarisation amène énormément d'amélioration de nos conditions. Il faut, en contraire, savoir les analyser, il faut les prendre, il faut convaincre. Et ce discours de la pédagogie a manqué terriblement pendant toute cette crise. La cohérence a manqué. C'est cette cohérence-là et cette observation du réel que je souhaite retrouver. Et c'est dans ce sens-là et dans ce sens-là seulement que mon discours se tient.
Oui, mais alors vous dites, il faut convaincre, justement, parlons-en justement de ce débat, notamment d'experts. On vous a vu vous écharper avec l'un de vos confrères, c'était cette semaine.
C'est un bien grand mot.
Vous voulez dire qu'il est faible, parce que vous trouvez que c'était faible comme mot. C'était sur le plateau de CNews, chez nos confrères de Punchline.
Oui, il y a eu hier soir un premier combat de MMA à Bercy, c'était pas le même niveau.
Ouais, avec le docteur Martin Blachier, contrairement à vous, lui, donc il alertait sur une seconde vague en France depuis plusieurs semaines. Alors face à cette bataille d'experts, on ne sait plus qui et que croire. Est-ce que la contradiction est inévitable en science ?
Elle est même la nature de la science, c'est-à-dire que vous avez, et tous fonctionnent comme cela, vous avez une intuition, vous avez une hypothèse qui se construit progressivement, vous avez le besoin de la démontrer et ensuite de la rendre publique pour qu'elle soit critiquée. Et c'est seulement après ces critiques qui viennent en établir la certitude et qui renforcent l'hypothèse et la démonstration que vous pouvez enfin parler de quelque chose qui est sous-jacent au réel et que votre expérience a pu démontrer. Donc c'est la pratique même de la science qui est là. La seule différence, c'est qu'elle a été cette fois-ci à ciel ouvert. Et derrière cela, on a vu aussi d'autres niveaux scientifiques, commerciaux, conflits d'intérêts qui ont largement éclairer le débat sous d'autres couleurs.
Alors un petit mot justement du conseil scientifique. Le président de ce conseil, Jean-François Delfracy, a averti les Français qu'il fallait se préparer à vivre avec le virus jusqu'à l'été prochain. Et il n'exclut pas, lui non plus, un reconfinement local. Qu'est-ce que vous pensez de ce conseil scientifique ?
Bien, j'entends déjà qu'il n'emploie plus le mot de confinement global, de confinement généralisé, parce qu'il se rend compte du caractère terriblement destructeur de la décision qui a été prise au printemps. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est que si ce virus ne disparaît pas, il va effectivement être là pour beaucoup plus longtemps encore. C'est-à-dire qu'il peut être persistant très longtemps. Et
vous pensez qu'on peut en arriver à bout de combien de temps ?
La question n'est pas d'en arriver à bout, la question est de savoir comment l'adaptation de notre espèce va se faire par rapport à ce que seront les mutations successives de ce virus. S'il se dégrade en virulence, il va probablement et progressivement disparaître. Si notre immunité se renforce, ce qui est en train de se faire, je l'ai dit, alors à ce moment-là, comme pour la Suède, zéro décès hier, on verra une capacité à faire circuler un virus qui n'aura plus la létalité qui était la sienne au printemps. C'est exactement ça dont on voit finalement l'un des effets et la différence en termes de létalité pour l'Europe comme pour la France nous rapproche de ce que sont finalement les démonstrations suédoises. Et ce que je note, c'est que l'auteur de cette stratégie et de cette cohérence expliquée à la population suédoise, Johan Giesecke, est maintenant conseiller à la direction de l'OMS. Que je sache, les conseillers français n'y sont pas.
Le professeur Jean-François Toussaint est notre invité. Encore un petit quart d'heure sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour sur Sud Radio dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invité, le professeur Jean-François Toussaint, qu'on voit de plus en plus justement sur les plateaux, télé, radio. En tout cas, votre présence, professeur, a appelé beaucoup, beaucoup de commentaires, parmi les plus importants d'ailleurs depuis que cette émission existe, quand j'ai annoncé votre venue. Une question toute simple, est-ce que le débat scientifique a vraiment sa place à la télé ou à la radio ou sur les réseaux sociaux selon vous ?
J'ai pas de réponse à ça. La seule question, c'est...
Ben non, mais nous, on est un peu surpris. On a envie de se dire, mais vous parlez entre vous, entre...
Je comprends, bien sûr.
Professeurs qui
n'est pas d'accord. On ne cesse de s'échanger des arguments positifs, négatifs. Si, si, bien sûr. La seule différence, c'est qu'en raison de cette crise sanitaire, ce débat a lieu. Point. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de le constater. Il est venu à la surface médiatique parce que les gens s'inquiétaient, voulaient savoir et ont commencé le recours qu'ont eu l'ensemble de vos confrères à des spécialistes dès le début de la pandémie pour comprendre, a fait que certains sont venus proposer un certain nombre de clés de lecture. C'est important de pouvoir le faire. Puis ces clés de lecture pouvaient être différentes entre les uns et les autres. L'essentiel est de pouvoir les faire se confronter dans un débat qui doit rester un débat serein et un débat respectueux. Ça n'a pas toujours été le cas, peu importe, les gens qui n'en respectent pas les règles se font plus de mal à eux-mêmes qu'ils n'en font aux autres.
Ah bah ça tombe bien justement. Alors selon vous, est-ce qu'il y en a un qui respecte les règles ? C'est le professeur Raoult, hein, dont on parle beaucoup, comme vous d'ailleurs en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de sa proposition de traitement à l'hydroxychloroquine ? Est-ce que vous la défendez ? Et quel regard vous avez sur lui ?
De toute façon, là-dessus, les éléments de la capacité à organiser toute la structure qu'il a mis en place à Marseille, et qui a été unique, montrent bien qu'ils ont eu des capacités de découverte, de production scientifique, de publication parmi les meilleurs au monde. Ça ne fait pas de doute. Avant cette épidémie.
Ensuite, Marseille, qui est pourtant, position... de nouveau l'objet de restrictions très importantes.
Oui, bien sûr, mais parce que là, il y a une situation sanitaire, et une fois de plus, on a parlé de la cohérence ou non de ces mesures. On avait vu fin septembre déjà commencer à diminuer les indicateurs, et donc on n'est pas sur des valeurs qui sont aussi graves, là encore, comme elles pouvaient l'être
sur l'hydroxychloroquine
auparavant. Sur l'hydroxychloroquine, il y a autant de publications positives que négatives. Ce que l'on voit très bien, c'est qu'il n'y a eu, d'un côté comme de l'autre, aucun des arguments conclusifs qui montraient des effets délétères de l'hydroxychloroquine, et ça évidemment, et là il a raison, ce sont des points qui, autour d'une molécule utilisée depuis si longtemps, ne permettaient pas d'en faire plus que ce que l'on sait, c'est-à-dire des accidents cardiaques rares qui, effectivement, n'ont pas explosé pendant la crise du Covid. Les effets positifs, cela demande encore à être prouvés, on n'en a pas la certitude. Didier Raoult, Christian Perron ont fait leur test. Et la grande différence, c'est qu'ils ont enclenché le processus scientifique. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes donné les moyens d'aller voir si les hypothèses, qui étaient au départ des hypothèses chinoises, hein, c'est simplement parce que les publications chinoises ont été précoces dans ce domaine, qu'ils ont appliqué cette possibilité. Ils ont fait un certain nombre de démonstrations dont on voit par la suite, et c'est la grande question, qu'elle ne répondait pas aux critères spécifiques de la recherche de traitement contre placebo ou contre groupe contrôle randomisé, double aveugle. Mais si on veut développer cette idée, à ce moment-là, il faut l'appliquer au confinement. Il faut l'appliquer à toutes les mesures non médicamenteuses qui ont été déployées. Et c'est là, et je vous rappelle ce que nous avions dit tout à l'heure sur les masques, que l'on voit que cette règle n'a pas été appliquée non plus dans ce domaine. On a fait ce que l'on croyait. Et ce sont essentiellement des croyances, non pas des démonstrations scientifiques, mais des croyances qui ont fondé le débat. Ce que les autorités suédoises ont fait, c'est de regarder quelle était la valeur du débat scientifique et de dire, si je n'ai pas de démonstration, alors je n'applique pas à l'aveugle ce que me proposent tous les autres.
Alors, en parlant d'autres pays, hein, vous parliez de la Suède, il y a les États-Unis, hein, l'antiviral Remdesivir, là aussi j'aimerais avoir votre avis là-dessus, il a été administré notamment à Donald Trump, et cela semble lui avoir réussi, hein, à le voir hier à la tribune de la Maison-Blanche. Alors c'est une opération de communication, c'est quoi ?
On peut difficilement dire que l'un des très nombreux traitements qu'il a reçus a été le plus actif pour le ramener. S'il avait eu simplement une forme mineure de la Covid, n'importe quelle molécule l'aurait amené là où il est actuellement, et ça ne va pas changer. Là, on est dans un pur processus politique d'une campagne électorale extraordinairement sévère, dans lequel chacun déploie des arguments dans un sens ou dans l'autre. Le Remdesivir, pour ce qui a été publié, ne montre pas d'effet sur la mortalité. Point.
Professeur, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors c'est vrai qu'on est à notre tour très anxiogène hein, en dénonçant évidemment ces politiques, selon vous, hein, qui ne sont pas bonnes, en tout cas qu'il faut plutôt modifier.
Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, c'est qu'il faut leur redonner une cohérence. Et une cohérence fondée sur ce que la réalité nous demande d'observer et d'accepter. Il faut comprendre cela. Et c'est sur ces points-là qu'il faut fonder une
politique.
Concrètement,
vous considérez qu'Emmanuel Macron, Olivier Véran prennent les bonnes décisions ou pas ?
Je pense qu'il y en a un certain nombre qu'on peut encore très largement améliorer.
Voilà, donc ça c'est dit. En tout cas, vous n'êtes pas pour la démission d'Olivier Véran. Vous ne l'appelez pas à sa démission.
Une fois de plus, ni la judiciarisation, ni la demande à la démission. Les gens font ce qu'ils peuvent. Ils sont dans des situations qui sont des situations complexes. La question, une fois de plus, lorsque la règle est prise, est de trouver les éléments pour fonder cette règle sur le réel et sur le réel prouvé.
Alors, on parle donc beaucoup de caractère anxiogène, hein, des mesures prises. Donc, on le rappelle encore une fois pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut leur donner un petit peu de baume au cœur, rassurer les Français, leur redonner confiance dans les discours ? Car, donc, ce qui importe le plus, c'est en effet de dépasser ce cap et de se dire qu'au bout du tunnel, bah, ça va peut-être s'améliorer.
Eh bien, c'est ça qu'il faut voir, c'est comment voit-on le bout du tunnel ? On voit déjà que la question de la mortalité s'est réduit d'un facteur 40. On voit déjà que la létalité a été divisée par deux dans le monde. On voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous disent qu'il y a des facteurs environnementaux, des facteurs saisonniers qui rentrent, mais aussi des facteurs d'immunisation. Cette immunisation est en cours dans la population française. On voit bien qu'elle pourrait advenir à un niveau nécessaire pour contrôler le virus dans les mois qui viennent. Est-ce que cette hypothèse, qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse, se vérifiera ? C'est là qu'il faut l'avoir. Mais si vous avez ça en tête, ça veut dire qu'on peut très bien avoir une autre façon de résoudre le problème que de rester dans sa caverne pendant les 6 prochains mois, les 6 prochaines années ou les 6 prochains siècles. Ce que certains considèrent, dans certains modèles, nécessaire. C'est pas le cas du tout. On a à vivre normalement avec ce virus. 10 000 personnes l'ont déjà dit, mais c'est surtout qu'on a des moyens de renforcer ces capacités. On a parlé de l'activité, on a parlé de cette capacité à rehausser ses défenses immunitaires, on a parlé du sport, on a parlé de l'activité physique. Il faut sortir, y compris en hiver. Nos grands-parents le savaient, ils ouvraient les fenêtres tous les jours.
Parlons un peu de nos aînés dans les EHPAD. Ça vous indigne ou pas, cette situation ? Parce que des gens qui sont confinés depuis des mois et des mois, c'est pire que des prisonniers qui n'ont pas le droit de sortie.
Il y a des situations indignes que j'avais rapportées lors d'un récent entretien ici, avec un de vos confrères, sur lequel on a vu des situations d'abandon, d'isolation totale, qui ont été absolument contre-productives et qui ont au contraire augmenté la progression des maladies d'Alzheimer et placé les résidents des EHPAD dans des formes de cataclysmiques, de détresse par rapport à l'absence de contact humain. Tout cela n'est pas nécessaire lorsque l'on a la capacité de développer une prévention focalisée, lorsque l'on n'est plus en réponse aveugle pour interdire à tout le monde de voir les siens, mais au contraire, de laisser aux gens dans l'expression de leurs risques et dans la compréhension, donc avec une bonne pédagogie, le choix de décider pour eux-mêmes. Et à partir de là, lorsqu'on posera la question aux Français
et
aux Français,
leur faire confiance.
Peut-être, lorsqu'on leur fera confiance, nous répondront-ils.
Parce qu'on le voit, hein, est-ce que l'État craint aussi des mouvements de rébellion ? On voit quelques personnalités sur les réseaux sociaux, je pense à Nicolas Bedos, hein, qui avait appelé notamment, il est un peu revenu sur ses propos depuis, mais il avait appelé carrément à laisser tomber le masque, à vivre à fond, à tomber malade. C'est dangereux ou c'est salutaire selon vous que des gens comme lui
je
ou
crois
d'autres
que l'expression qui est spécifique à Nicolas Bedos, qui est une expression artistique, celle...
Oh, mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a eu d'autres.
Oui, il y en a eu beaucoup, d'autres philosophies, comme André Comte-Sponville, s'est exprimé très régulièrement.
Ce que je crains, c'est que pour protéger les vieux dont je fais partie, on finisse par sacrifier toute une génération. Voilà ce qu'il a dit chez nos confrères d'Arte.
Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui, moi, m'inquiète sur la capacité que l'on a à oublier que l'avenir est celui de nos enfants. Nous allons devoir passer la main, il est temps que nous soyons en capacité de maintenir les conditions de vie qui étaient les nôtres et de pouvoir éviter les écroulements, le terme a été utilisé par le Premier ministre français, d'éviter l'écroulement d'une société telle que nous sommes en train de le vivre maintenant. On voit des solutions qui viennent dire ben, il suffit de mettre des milliards pour soutenir, pour en... mais on ne peut pas mettre les gens à côté de la route sans qu'ils participent au cheminement et en leur disant, vous regardez simplement du bord de la route avec des plans garantis par l'État, de voir s'écrouler votre outil de travail et votre objet d'investissement. C'est impossible. Si au contraire on les laisse en capacité d'agir, ils vont, comme je le disais tout à l'heure, participer à la richesse nationale et ramener de l'argent pour l'endroit qui en a le plus besoin en ce moment. Ce sont les réanimations, ce sont les hôpitaux, c'est le système de soins français, médecins de ville compris. Voilà, si on a cette capacité-là, au lieu de dire « vous êtes responsable de la propagation d'un virus qui, par ailleurs, se répand partout », eh bien, c'est qu'on se trompe sur l'importance de ce virus et sur les gestes et les méthodes qu'il faut utiliser.
Professeur Jean-François Toussaint, dernière question de cet entretien. Comment vous expliquez alors, avec tout ce constat que vous faites, que vous soyez encore relativement isolé? Parce qu'on n'entend pas beaucoup de voix comme la vôtre hein, parmi vos confrères.
Je vous le disais, progressivement, on sent que les questions se posent de plus en plus. Elles seront posées par les secteurs qui seront les plus touchés.
Il y a un article paru dans l'Express un mardi qui s'intitule « Tout bien à Mukeli Toussaint, enquête sur les marchands d'espoir du Covid », rien que ça, qui vous qualifie plutôt négativement de rassuriste.
Oui, vous répondez quoi ? Je dirais que c'est dans la bataille actuelle une erreur qui entache le... la vision que ce journal aurait pu faire et aurait pu donner de lui-même, ça n'a aucune espèce de conséquence. Ce qu'il me paraît important, par contre, c'est pas d'être un marchand de catastrophisme sombre. Et ça a été la position sur laquelle se sont retrouvés la plupart des modélisateurs, la plupart des scientifiques, qui, une fois de plus, se sont trompés dans la hauteur du tsunami, et qui nous redisent à nouveau que nous allons avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts, alors que chaque jour nous démontre le contraire.
Donc vous êtes plutôt relativement optimiste.
Je reste optimiste, je reste dans la capacité des Françaises et des Français à décider par eux-mêmes lorsqu'ils auront bien compris et lorsque donc les instances auront fait preuve d'une pédagogie suffisante pour leur donner les clés de leurs décisions.
Merci professeur Jean-François Toussaint d'avoir répondu à notre invitation dans les incorrectibles sur Sud Radio. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je vous le rappelle, en replay vidéo. C'est sur la chaîne officielle YouTube de Sud Radio depuis la playlist des incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine à tous à l'écoute bien sûr de Sud Radio. Bye bye.